Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour et bienvenue à l'écoute de Radio Foot International avec toutes nos nouvelles venues de la planète football. Et nous commencerons cette coupe qui est à eux pour la 4e année consécutive, pour la 7e fois en 23 éditions, le PSG a remporté la Coupe de la Ligue. Une victoire facile où Di Maria et Cavani ont brillé au détriment de Monaco, étouffé par le talent et la tactique des Parisiens. Quelles conséquences sur cette fin de saison pour ces deux équipes qui ont soif de trophées et pour des raisons bien différentes d'ailleurs. Nous le verrons en se posant aussi cette question. Monaco peut-il tout perdre ? Un coup d'arrêt pour les Blues, une défaite en Premier League pour Chelsea. Tottenham se rapproche, Liverpool et City sont moins loin, peut-on dire. Le titre promis aux hommes d'Antonio Conte leur échapperait-il ? Et les Gunners vont-ils sortir du Big Four où ils figurent depuis 19 ans maintenant ? Eh bien, nous en parlerons et nous en parlerons notamment avec Habib Bey. Bonjour Habib.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Nabil Djellit, notre
bonjour
camarade.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Vient d'entrer dans ce studio. Bonjour Nabil et Bruno Constant, évidemment, notre spécialiste de la Première Ligue. Bonjour,
bonjour
Bruno.
Annie, bonjour à tous.
Bonjour Olivier.
Bonjour Annie.
Alors vous arrivez de Lyon.
Ouais, alors je suis rentré hier quand même. On n'y reste pas trop longtemps quand même à Lyon.
Oh, quand même.
Il faisait pas beau hier, il pleuvait.
Ah bon, ouais, vous avez raison de rejoindre le soleil parisien alors. Radio Foot, c'est parti.
Il récupère, attention, il a lancé, et c'est finalement Julian Draxler qui a été décalé sur la droite après une erreur de défense à contre-favorable. Cavani qui peut transmettre, et derrière, Julian Draxler.
Petite louche à destination de Sidibé dans la surface, Sidibé le petit crochet, il va pouvoir passer à Lemar, la frappe de Lemar,
oh, l'égalisation monégasque avec cette frappe de Thomas Lemar à l'entrée de la surface parisienne, la frappe du pied gauche qui va se nicher dans la lucarne gauche de Kevin Trapp. Passe de Draxler vers Di Maria et le but est 2-1 pour le Paris Saint-Germain avec André Di Maria, à nouveau totalement oublié par la défense monégasque.
Verratti qui rentre dans la surface de réparation, il a récupéré cette balle l'extérieur du pied pour trouver un superbe, pour trouver la reprise de volée d'Edinson Cavani. Oh, qu'il est beau ce but, la passe de Verratti, et on l'a vu se préparer avec des secondes et des secondes d'avance, il l'attendait ce ballon. Di Maria encore qui s'arrache, qui centre, et la reprise, le quatrième but, le doublé pour Edinson Cavani. Oh, quel travail encore d'André Di Maria sur la gauche, le centre parfait tendu à terre, et la reprise de volée au point de pénalty qui vient se loger sous la barre transversale, la messe est dite.
La messe est dite et encore une coupe pour le Paris Saint-Germain. Samedi soir, dans un parc OL plein à craquer, eh bien les joueurs de ce PSG n'ont pas tremblé. Ils ont gagné donc la septième coupe de la Ligue de leur histoire, la quatrième consécutive. Ils ont remporté donc la 23e finale de la Coupe de la Ligue. En chiffres, la récolte se poursuit pour cette équipe, Olivier.
Oui, je regardais les notes que j'ai prises samedi soir et dans la nuit de samedi à dimanche, hein, parce que c'est comme ça. Il restait sur 5 finales de coupe consécutives gagnées, Coupe de France, Coupe de la Ligue, au Stade de France. Alors, c'est ce qu'on disait samedi, on avait voulu leur mettre un peu des bâtons dans les roues. On s'est dit, tiens, on va les sortir du Stade de France, ces gars-là, pour voir s'ils sont capables de faire mieux ailleurs. Bah oui, boum, ça fait 6 finales de coupe de rang. Ils n'ont plus perdu en Coupe nationale depuis 3 ans. C'est simple. Et Kevin Trapp rappelait en conférence de presse de veille de match qu'ils avaient remporté 12 des 13 derniers titres qu'ils avaient disputés. Je parle pas de la Ligue des Champions, hein, sur le territoire national. Ça fait donc 13 sur 14. Il n'y a qu'une Coupe de France, il y a 3 ans, qui leur avait échappé. En gros, en France, Coupe de France ou Coupe de la Ligue, il y a plein de clubs au départ, mais à la fin, c'est le PSG
c'est
qui
le
gagne.
C'est le PSG qui gagne, oui. Toujours.
Bah, c'est tout simplement.
Habib, c'est 32 final, matchs pour être énorme. Le chiffre, en fait, qu'on a donné ce matin quand on préparait, 32 matchs de suite, Coupe de France, Coupe de la Ligue, qu'ils gagnent.
Et donc, tout autant logique qu'ils aient gagné samedi soir, Habib.
Logique, je suis pas sûr que tout le monde ait misé sur le Paris Saint-Germain avant cette rencontre.
Non, mais parce logique
que,
au vu du
mais
match.
Mais logique au vu du match, ça c'est clair. Il y a eu une suprématie du PSG pendant 90 minutes. C'est vrai qu'on a eu l'impression que Monaco pouvait revenir dans ce match, mais je suis pas sûr qu'ils avaient les armes déjà face à ce PSG aussi fort. Parce qu'il faut savoir qu'il y a un homme qui, pour moi, a tout changé, c'est Thiago Motta dans ce match, parce qu'il a conforté Verratti. Verratti est beaucoup mieux quand il est aux côtés de Thiago Motta. Je crois que les trois milieux de terrain, même si Rabiot était peut-être un ton en dessous de ces deux-là. C'est juste exceptionnel quand ces trois-là arrivent à dicter le jeu. On avait Andy Maria qui était enfin au niveau où on doit l'attendre chaque week-end, qui a aussi excellé dans sa position, je trouve, d'axial, parce qu'on a l'impression que tout le monde voulait Pastore comme titulaire. On s'est rendu compte que Di Maria a rempli ce rôle parfaitement entre les lignes du Paris Saint-Germain. C'est vrai que le PSG, sur ce match-là, il n'y a rien à dire. Monaco a été en dessous, PSG était bien au-dessus. Il y a sûrement l'expérience, il y a la qualité de cette équipe aussi quand elle est à son niveau. Il n'y a rien à dire, rien à dire. Ils ont écrasé le Monaco sur cette rencontre.
Ce qui est intéressant dans ce qu'a dit Habib, c'est aussi le contexte un peu psychologique. Enfin, c'est vrai que beaucoup, il y a une Monaco-mania en ce moment en France. C'est normal parce que c'est la deuxième meilleure attaque d'Europe. Mais à écouter beaucoup d'observateurs, c'était 3 sur 4. Voyez Monaco gagner ce match.
Ils ont une moyenne de 3 buts par match. Alors, on se disait que c'est peut-être là qu'il avait les marques.
On a vu aussi qu'ils avaient une moyenne aussi à prendre des buts parfois contre certaines équipes. On l'a vu face à Manchester City à l'aller où ils en ont pris 5 et on a encore vu.
On a surtout vu une moyenne d'âge de 28 ans à Paris et de 24 à Monaco, et ça s'est senti, je trouve, samedi. C'est-à-dire que à Paris, 28 ans, c'est 4 ans d'expérience en plus. Ce sont des joueurs, Habib, je vous regarde, qui ont tout gagné depuis 4 ou 5 ans, même dans les clubs d'avant. C'est pas le cas à Monaco. 24 ans, ça veut dire qu'on est jeune et qu'on n'a pas encore gagné. Qui à Monaco a vraiment gagné beaucoup de titres dans le 11 de départ?
L'expérience qui manquait à Monaco, c'était quand même Falcao et surtout Fabinho au milieu de terrain. Et ça manque énormément. On voit bien que Monaco, dès qu'il y a
mais tu avais quand même Moutinho sur l'expérience.
Je trouve que
réellement sur cette rencontre, quand on regarde, on se dit Paris, Monaco a battu Paris en championnat, ils ont été faire match nul au Parc, mais face à un Paris qui n'a pas été à son niveau sur ces deux matchs-là. Lorsqu'on a un Paris à son niveau, c'est-à-dire au niveau qu'ils peuvent avoir contre Barcelone au match aller, le niveau qu'ils ont eu samedi, même à Monaco, on va dire, avec Fabinho et Falcao, aurait peut-être perdu avec un pari à ce niveau-là.
Monaco n'était pas à son niveau.
C'est-à-dire
qu'aujourd'hui,
c'est vrai que Monaco est exceptionnel cette saison, mais sur beaucoup de rencontres, le PSG n'a pas été au niveau où on les attendait cette saison.
Ils n'ont pas été face à Montpellier. C'est vrai qu'ils ont eu des creux, par exemple, en championnat qu'on ne voyait pas la saison dernière. Mais en revanche, il y a une amplitude émotionnelle quand même importante, parce que autant c'est vrai qu'ils ont pu être décevants, mais autant par certaines séquences et sur certains matchs, moi, j'avais jamais vu ça sur les 4 dernières saisons. Quand ils gagnent 5-1 au Vélodrome, la manière dont ils gagnent, faut pas non plus effacer des esprits. Victoire face à OFC Barcelone. Alors ok, il y a eu le match retour et c'est ce que les gens retiennent, mais par séquence, ils ont été quand même assez exceptionnels. Et face à Monaco, sur le match là, ça a été assez incroyable. Alors je veux bien l'expérience, mais à un moment, il y a le talent. Et le talent des trois devant, il a clairement fait la différence, que ça soit Draxler, Di Maria ou Cavani, ils ont été à leur niveau. Et quand ils sont à leur niveau, il n'y a pas de match en France.
Je parlais plus du manque d'expérience de Monaco par rapport au talent de Paris, on le connaît. Monaco, vous l'avez dit, c'est la Monaco mania. On s'attendait tous à voir un Monaco sans doute meilleur que ça. Je parle d'expérience pour dire que Monaco en a manqué, et ça c'est vu, je trouve.
Il n'y avait aussi pas le même enjeu pour les deux clubs. Il y avait un des deux clubs qui jouait quasiment sa saison, ou du moins pour sauver sa saison, alors que Monaco, c'est la plus petite des compétitions qu'ils peuvent gagner. Il y a surtout le championnat.
Quand tu es sur le terrain, tu te poses vraiment ces questions quand tu peux gagner un titre.
Non.
Parce que c'est ça que je me
fais.
Je pense pas que tu puisses te les poser. Je crois que déjà le dénouement du match fait que Paris s'enlève une forme de pression très rapidement.
Parce que
vous marquez au bout de 5 minutes, ça veut dire que les petits doutes qu'il peut y avoir dans les têtes des Parisiens, ils disparaissent à ce moment-là.
Mais il y en avait des doutes.
Mais ils sont revenus au moment de l'égalisation monégasque. Il y a eu quelques minutes de flottement et d'énervement chez les Parisiens. On a vu le syndrome Barcelone traîner un peu.
Après, il y a une clé, c'est quand même. Alors moi, Mota, pas Mota, parce qu'on nous explique qu'il est cramé. Elle est cramée, il est bouilli, il va pas assez vite. On se rend compte quand même que c'est le cerveau du milieu de terrain. Et en face, il y avait quand même une équipe qui courait. Monaco, finalement, il est encore à la hauteur. On parlait pour lui d'une reconversion professionnelle, mais apparemment, il y a des cadres quand même dans le vestiaire qui poussent pour qu'il reste une saison supplémentaire. Il y avait aussi un message de la part d'Emery. Il y avait des joueurs qui étaient sur le terrain et d'autres qui étaient sur le banc. Et je pense que qu'un garçon comme Matuidi, qui a déjà failli partir à l'intersaison dernière, de manière subliminale, il y a peut-être un message.
Débat. Il n'y a plus de débat pour personne aujourd'hui. Quand tu compares Rabiot à Matuidi, tu te dis que de toute façon, l'avenir du Paris Saint-Germain passe par Adrien Rabiot.
Oui, mais on parle d'expérience.
Mais l'expérience, on entend ce mot-là, l'expérience. C'est vrai que c'est important. On regarde dans toutes les compétitions.
Il y a l'expérience,
mais c'est surtout aussi la qualité des joueurs. Moi, quand j'ai regardé ces trois joueurs-là au milieu de terrain, c'est vrai qu'on a ressorti Di Maria, on a ressorti Cavani parce que ce sont des buteurs. Mais rappelez-vous que si
contre Barcelone, vous avez un milieu de terrain comme ça a été le cas samedi, qui est capable de garder le ballon. À aucun moment ils en perdent.
Mais je te pose la question, tu dis ok, mais Thiago Motta il a quel âge? Je veux dire.
Le problème qu'on a avec Thiago Motta, c'est qu'on a un débat sur certains matchs où on trouve qu'il ralentit le jeu du Paris Saint-Germain. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut regarder la qualité individuelle d'un joueur et de ce qu'il produit autour de lui. Je pense que Verratti, et je continue de le penser, est bien meilleur lorsqu'il est avec Thiago Motta.
Si la saison prochaine, ils sont en quart de finale de la Ligue des Champions, il prend le bouillon en termes d'intensité face à l'Atlético Madrid, qu'est-ce qu'on va dire?
Mais le bouillon, ils l'ont pris avec Verratti, ils l'ont pris avec Rabiot, ils l'ont pris avec Matuidi. Tu peux avoir le même débat avec
tous ces joueurs-là. Donc ça veut dire qu'il faut aussi peut-être chercher un autre joueur dans ce secteur-là.
Alors la question, en vous écoutant, ça serait peut-être qu'est-ce qui a fait la victoire du Paris Saint-Germain samedi soir selon vous, Habib? C'est une victoire. On parle d'expérience. Alors c'est l'expérience parce qu'ils ont joué un nombre incroyable de finales ces derniers temps. Ou est-ce que c'est une victoire aussi tactique d'Emery?
Mais Emery, il faut lui aussi accorder certains lauriers parce que tout le monde ne voyait Pastore titulaire. Si Paris avait perdu, tout le monde aurait crié au scandale de dire oui, pourquoi Pastore n'a pas joué. On se rend compte que sur ce match-là, je trouve que Paris a fait preuve d'énormément d'équilibre. C'est-à-dire que les trois milieux de terrain étaient cantonnés à récupérer les ballons, à les donner. Di Maria, lui, a créé justement offensivement. Et j'ai trouvé que même si Kurzawa a été très offensif en seconde période, ces deux-là ont été cantonnés à bien défendre.
On avait un
Serge Aurier qui a très bien défendu, qui a été incisif. Donc j'ai trouvé que cette équipe avait de l'équilibre. On aurait pu penser que Paris allait passer par les côtés et on se rend compte que c'est pas le cas. C'est surtout les milieux de terrain et les joueurs offensifs que sont Draxler, Cavani et Di Maria qui ont fait le jeu. Donc il a fait des choix qui se sont avérés payants sur ce match-là.
Et juste un élément pour terminer, on a vu qu'on pouvait éventuellement se passer de Matuidi, on sait qu'il se passe de Ben Arfa, mais on a aussi vu qu'on pouvait se passer de Lucas. Parce que moi, Lucas, franchement, je suis un peu dur,
Lucas et Di Maria, surtout samedi soir,
c'est une réalité parce que à Barcelone, il met Lucas sur le côté. Alors peut-être qu'il avait une stratégie, qu'il allait prendre la profondeur et tout ça, mais il a été catastrophique. Mais à quoi ça sert d'aller chercher un Cristiano Ronaldo ou un truc comme ça quand vous avez trois garçons comme ça qui sont complètement complémentaires pour le Paris Saint-Germain? C'est une vraie garantie d'avenir.
C'était équilibré partout. J'entends Habib quand il parle de la défense, mais enfin devant, ça a fonctionné à merveille. Draxler, passeur, buteur. Di Maria, double passeur, buteur. Cavani, double buteur. Et quel but! Il marque là encore, il aurait même pu marquer un triplé. Il y en a une qui passe tout près. Et au milieu du terrain, Verratti, Motta, je reviens sur ce que disait Habib au départ. C'est un régal.
C'est ce qui fait la différence. Lorsque vous avez des joueurs de ce talent devant et que vous avez une telle maîtrise au milieu de terrain, vous savez que quoi qu'il arrive, ces joueurs-là vont se procurer des occasions et qu'ils vont les mettre. Quand vous avez Draxler, Di Maria et Cavani, si vous les pourvoyez de ballons, ils vont marquer. Ils vont marquer, c'est une certitude. Si vous leur en donnez 10, ils vont en mettre 4 ou 5.
Mais la manière dont ça fonctionne entre Thiago Motta et Verratti, c'est aussi, celui qui oriente, qui regarde. On parle de ce match-là.
Je suis content de revenir sur ce match.
Il y a aussi un adversaire qui n'était pas à la hauteur.
On se pose sans cesse la question toutes les saisons et il est toujours là et il a toujours un rôle incroyable.
Il faut savoir le gérer.
Ils se sont plantés à l'intersaison.
Sûrement, ils se sont plantés sur le recrutement. Mais on a eu le débat aussi avec Cavani. Aujourd'hui, j'entends, par exemple, il faut remplacer Cavani. Vous allez faire venir qui aujourd'hui pour remplacer Cavani? Parce que moi je veux bien, mais je mets au défi n'importe quel président, n'importe quel entraîneur aujourd'hui de se séparer de Cavani pour 65-70 millions.
Mais c'est pas compliqué.
Et je vous donne 100 millions, qui vous allez chercher?
C'est pas compliqué, il est dans le top 5 des meilleurs buteurs, pas meilleur attaquant, il est dans le top 10 parce qu'attaquant, il y a aussi les joueurs côté Neymar, Messi, mais aujourd'hui c'est quoi? C'est Agüero, Lewandowski, Benzema, Suarez et Cavani.
Maintenant je vous pose la question. Aujourd'hui, Benzema est un très 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 bon joueur pour le Real Madrid. Mais est-ce qu'aujourd'hui, je te donne la possibilité d'échanger Cavani et de prendre Benzema, est-ce que tu le prends?
Pas dans ce système-là.
C'est pour ça qu'il faut penser au système.
Puis là, c'est
pas il faut pas avoir une réflexion juste pour la qualité individuelle du joueur. Ce que fait Cavani aujourd'hui, c'est exceptionnel.
Non, mais alors,
40 buts en 40 matchs, c'est exceptionnel.
Et puis le boulot derrière.
Exactement, le deuxième but, c'est lui qui va le...
au début. Mais qu'est-ce qu'il a bas encore comme boulot?
Le problème, c'est pas Cavani,
c'est
leur meilleur joueur. Donc c'est pas le problème du Paris Saint-Germain, le problème
Il a été, il est plus le problème depuis six mois.
Pourquoi Habib? Parce que pendant 2 ans et demi, on l'a acheté pour 65 millions d'euros.
Et on l'a pas fait jouer à son poste.
Au départ, ce qui était prévu, c'est qu'il joue avec Zlatan. Mais comme Zlatan, de toute façon, il a envie de jouer tout seul, ben c'est réglé, quoi. Je veux dire, le problème, il a été réglé. Il s'est retrouvé sur le côté, il a quand même fait des stats. Et aujourd'hui, c'est vrai, vous avez raison, il est omnipotent, il a 30 ans et le Paris Saint-Germain veut le prolonger. Donc,
omniprésent. Surtout et quand on a parce qu'omnipotent c'est pas tout à fait pareil et c'est moins bon.
Désolé.
C'est vrai qu'on a poser la question en zone d'interview après. C'était une des questions qu'on posait de manière récurrente à tous les joueurs du Paris Saint-Germain. Ils ont été quelques-uns à s'arrêter, évidemment. Et sur Cavani, et évidemment, ils étaient tous dithyrambiques. C'est-à-dire qu'ils disaient tous, mais il joue à son poste. Il a attendu le temps de jouer à son poste. Donc, nous, on n'est pas surpris. Voilà, on le trouve au niveau auquel on l'attendait à son poste.
Moi, je mets au défi quiconque d'échanger aujourd'hui, pour même pas un euro de plus, Lewandowski et Cavani. Je mets au défi.
Ça dépend comment tu joues. Si tu joues avec davantage de possession, un joueur comme Lewandowski, il est nettement meilleur que Cavani. Si tu joues un peu plus avec un bloc bas, tu vas jouer
un peu plus. Regardez les stats. On va me dire, OK, il est en Allemagne, il est au Bayern de Munich. Aujourd'hui, les stats de Cavani. Je suis président du Paris Saint-Germain. Si on me demande d'échanger, juste comme ça, échanger sans, je suis plus
assuré. Le joueur qui ressemble à Cavani dans le style, et on est sur une radio africaine, c'est Aubameyang. C'est un joueur qui prend beaucoup. Même si après on peut toujours discuter, en première intention il est fantastique Cavani, techniquement il est loin d'être mauvais aussi Aubameyang, mais dans le registre il ressemble plus à un Aubameyang qu'à un Benzema ou à un Lewandowski Cavani.
En tout cas Cavani, El Matador, et eh bien c'est lui qui a marqué déjà 6 buts en finale de la Coupe de la Ligue, et donc c'est le meilleur buteur de l'histoire du club en Coupe de la Ligue.
40 matchs,
ouais, il est là au rendez-vous lui en général. Alors on parlait de Cavani et de ses Parisiens qui ont été bons, et puisque Di Maria était l'homme du match en jouant à la place de Lucas. Et bien pour le président du club, Nasser El Khelaifi, on va l'écouter, parce que pour lui, et bien c'était un tellement bon jour que c'était comme si c'était le premier jour.
Je suis très heureux pour les joueurs, pour l'équipe, pour les supporters, pour le coach, le staff, parce qu'on a mérité cette trophée. On a l'habitude pour un moment, pour cette trophée, mais elle a été difficile un moment pour nous, après la Barcelone. Mais vraiment aujourd'hui on a montré le vrai visage du Paris Saint-Germain, ça Paris Saint-Germain. Mais vraiment on a montré le grand niveau du Paris Saint-Germain. La saison commence aujourd'hui pour nous, parce que c'est difficile pour les autres. Maintenant on est là, on est fort, on est là avec toute la critique, comme vous savez. Le vrai objectif c'est de gagner le championnat, le titre. J'ai très confiance qu'on va gagner.
C'est le jour le premier jour de la saison de la pré.
Sont contents les abonnés depuis le début de saison.
De la pré-élimination, c'est ça.
C'est ce qui me surprend dans ce discours, c'est de la com, hein. C'est de la com de la part du président.
Malheureux.
Mais pour moi, c'est pas une bonne com, parce que ça veut dire qu'on oublie tout ce qui s'est passé avant. Dans ces cas-là, le 4-0 du Barça à l'aller, on oublie aussi.
Exactement.
Non, ce sont des performances qui ont eu lieu et qu'il faut aujourd'hui assumer pour le Paris Saint-Germain. Et la saison ne commence pas sur la victoire en Coupe de la Ligue.
Mais quand il dit ça, ça veut dire quoi?
Ça veut dire qu'il veut le titre et qu'il veut tous les titres.
Qu'il veut garder.
C'est le début de la saison de finale.
Excuse-moi Olivier, s'il veut pas garder Emery, il dit pas ça. Il aurait dit oui, bon, c'est bien, mais c'est vrai que on a essayé d'effacer cette terrible désillusion. Il en parle pas. C'est-à-dire que lui, il a envie de repartir.
Ouais, mais Nabil, tu sais très bien, il a prolongé Laurent Blanc, il l'a viré 2 semaines après.
Ouais, enfin, c'est pas lui aujourd'hui.
Peu importe si c'est pas lui qui vire. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on sait que c'est tellement aléatoire ce type de discours. Il veut prolonger Emery. Si demain Emery perd le championnat et perd la Coupe de France, tu sais pas ce qui peut arriver à Unai.
C'est aussi une manière de mettre la pression sur Monaco. En disant la saison commence maintenant, là on va venir vous chercher, il y a 3 points c'est vrai, mais nous on est prêts, on est gonflés à bloc, on va aller vous chercher. C'est de l'intox, moi je trouve ça très mauvaise communication, parce qu'il disait en début de saison que la priorité c'est la Ligue des Champions, que les dirigeants au Qatar disent que c'est la Ligue des Champions.
Depuis 5 ans ils nous disent que
donc
c'est
la saison a commencé une fois que la Ligue des Champions a été effacée.
Peut-être qu'ils ont pas digéré encore.
C'est peut-être la saison des moissons, parce qu'en fait on a commencé par un titre et ils en veulent d'autres, parce que c'est la question qu'on se posait. S'ils avaient perdu, quelle influence ça aurait pu avoir?
Et là, on se dit, quelle
influence positive ça va avoir maintenant sur la fin de saison? Est-ce que lui, il dit j'ai confiance? Est-ce qu'on va les voir champions?
Non.
Ça dépend de Monaco.
Moi, je pense pas. On va venir à
Monaco dans la deuxième partie de Radio Foot.
Et l'avantage.
Monaco a 4 points d'avance.
4 points d'avance.
3 plus 1.
Et l'avantage, énorme avantage de Monaco, c'est qu'il ne joue plus le PSG cette saison. Et c'est un énorme avantage.
Ouais, il joue Lyon à la 35e journée, et ça risque d'être un tournant. Et le Paris Saint-Germain se déplace à Nice à la 34e journée. Donc, il reste quand même des possibilités. Et souvenez-vous, Monaco a déjà été accroché par Bastia, par exemple, à Furiani, un partout. Donc il y a rien qui est plié. Puis la Ligue des Champions pourrait prendre également du jus à cette équipe monégasque face à Dortmund, où vous faites aussi beaucoup d'athlétisme, parce que il faut cavaler.
Moi, je pense que c'est un moteur, la Ligue des Champions. Pour une équipe, tu m'enlèveras pas de l'idée qu'une équipe qui joue la Ligue des Champions, c'est mieux aujourd'hui pour Monaco. C'est ce que je pense. Tu vas enchaîner les matchs. Mais tu perds.
Est-ce que tu peux t'évaporer ou te laisser aller à penser avec des champions? C'est arrivé un peu à Marseille, ton époque, quand vous avez fait un bon parcours en l'ancienne Europa League.
Exactement, en 2004.
Et en championnat, vous aviez un peu chuté.
On avait fini 7e du championnat cette année-là. C'est vrai que c'était avait été compliqué. Mais je continue de penser, mais ça, c'est une vision d'ancien joueur, qu'une compétition comme la Ligue des Champions est intéressante. et dynamique. Pour la dynamique, c'est bien.
On va y revenir sur la dynamique de la fin de saison pour ces deux équipes que sont le Paris Saint-Germain et surtout Monaco. Monaco qui, sans doute, eh bien, on le verra, Leonardo Jardim n'a peut-être pas eu la main heureuse, voire son effectif qui s'essouffle un peu. On se retrouve juste après les informations.
Parlez-vous Paris ? Radio Foot International. Annie Gasnier.
Retour dans Radio Foot International dans la deuxième partie de cette émission avec nos invités, avec Habib Bey, Bruno Constant, Nabil Djellit et avec Olivier Pron. Alors nous parlions, on essayait de se projeter, de tirer les leçons et surtout les conséquences de cette victoire parisienne sur Monaco. On parlait de Monaco, on va y rester un petit peu parce que c'est l'équipe qui est toujours en tête du championnat de France. Mais là, on les a vus un peu à la peine, les Monégasques. Et on va écouter justement Leonardo Jardim parce que lui, il a l'air de dire un peu un match après un match et on passe à autre chose.
Cette groupe, c'est beaucoup de joueurs, c'est la première fois qu'ils jouent une finale, c'est difficile contre Paris. On finit la Coupe de la Ligue, nous arrivons à finale après 7 ans que Monaco n'est pas arrivé en finale, arrivé cette fois, jouer, essayer de gagner, pas possible parce que l'adversaire aujourd'hui est supérieur et c'est fini. Alors maintenant, notre tête, c'est la Coupe de France, que c'est mercredi et après... C'est le championnat, et après le Champions League, et c'est comme ça. Mais chacun a son place.
Voilà, il se projette dans l'avenir, Leonardo Jardim.
Il vaut mieux qu'on l'appelle. Je crois qu'il joue mardi hein, et pas mercredi contre Lille. S'il n'est pas au courant, ça va tourner bien dans cette affaire. Ils accueillent Lille en quart de finale. Mercredi, c'est Paris qui jouera à Caen contre Avranches, une équipe de nationale. La veille, oui, il avait dit, mais c'est normal, je ne veux pas opposer et dire qu'il dit tout et son contraire. C'est normal que maintenant, le discours, c'est de se dire, ok, on passe à autre chose. Mais il ne faut pas minimiser. La Coupe de la Ligue, ils étaient là pour la gagner. La veille, en conférence de presse, il avait bien dit, tout le monde nous parle du beau jeu. Tout le monde nous dit qu'on marque beaucoup de buts, ok, ça c'est acquis, on le sait. Mais maintenant, pour valider tout ça, il faudrait qu'on gagne des titres, et gagner un titre, ça commence par demain Coupe de la Ligue.
On ne joue pas une finale pour la perdre.
Exactement. J'ai jamais vu une équipe
comme ça. Ça me plaît, ça.
Bien sûr.
Ah, non, mais genre de phrase qui me plaît.
Non, mais parce qu'eux, ils affichent, on sait que l'objectif affiché par Vassiliev, c'est le titre.
Mais l'impression était moins importante sur leurs épaules, c'est ça aussi. L'impression était moins importante. Ils ont le championnat à gagner, ils peuvent le perdre, ça c'est vrai.
Bien sûr.
Ça va être une pression psychologique énorme, et on ne sait pas comment ils vont la jouer, comment ils vont subir cette pression. En plus d'avoir la Ligue des Champions dans les pattes, qui est un atout énorme, parce qu'ils peuvent aller très loin. Dortmund, c'est un match qui est très ouvert. Donc, ils peuvent se mettre à y croire, ils peuvent oublier un peu le championnat ou pas avoir le ressort psychologique pour enchaîner les matchs de championnat après les champions. On le voit souvent.
Mais c'est l'objectif numéro un.
L'objectif des propriétaires et du propriétaire russe, c'est absolument le titre. Mais après, vous avez raison. Quand
le titre de champion de France.
Ouais, titre de champion, quand t'es joueur de
France. Mais les joueurs aussi, hein, je les ai rencontrés à la fin du match. J'ai vu Bakayoko, j'ai vu Valère Germain. On a discuté avec le petit jeune aussi, Cardona. Ils ont en tête une seule chose, c'est d'être champion. Et depuis le début du championnat, c'est-à-dire qu'il n'y a que ça qui les anime. Ouais, pour eux, le reste c'est du bonus. Ça ne veut pas dire que les finales, t'as pas envie de les jouer, t'as pas envie de les gagner. Maintenant, c'est une étape qui est perdue.
On rappelle que Monaco n'a rien gagné depuis 2003.
Et alors justement, 14 ans quand même. Justement, est-ce que ça pourrait pas aussi jouer, parce que en 2003, selon les chiffres, alors ils étaient premier à 6 journées de la fin, et tout d'un coup, ils se retrouvent à la 3e place, bon, alors derrière Lyon et Paris, en fin de saison, et en plus, ils vont se retrouver quand même en finale de Coupe d'Europe, mais ils vont la perdre. Donc, est-ce que c'est pas un peu dans leur tête aussi, cette peur,
en fait, c'est oui. Ça, malgré une saison fantastique
leur
en termes de contenu.
Exactement.
Franchement, c'est une vraie
hypothèse. Parce que c'était une de leurs meilleures saisons, 2003-2004, en tout cas, ces derniers temps.
C'est une vraie hypothèse. Ça va être difficile à gérer. Vous parliez d'expérience tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a Moutinho, qu'on oublie, qui est international portugais, qui a remporté quand même la finale de l'Euro avec le Portugal. Il y a qui comme joueur d'expérience? Il y a Subatic, qui a déjà joué des matchs de Ligue des Champions. Il y a Glick, mais qui était au Torino, qui n'a pas non plus une expérience incroyable. Le vrai leader, on va dire, quelque part, qui a un vécu assez incroyable au niveau, c'est Falcao. Après, il y a aussi ce qui est une de leurs forces à Nice, et ce qui est paradoxal aussi, c'est aussi l'insouciance.
C'est qu'on met souvent en opposition expérience, et puis quand tout va bien, on parle de fraîcheur. Donc cette fraîcheur,
oui,
elle va aussi servir
face à
Manchester Monaco.
City, ça a été la fraîcheur qui l'a emporté et la détermination.
Mais autant face à Manchester City, j'ai vu une équipe, autant face au Paris Saint-Germain, j'ai l'impression d'en avoir
vu. C'est pas les mêmes armes. Je pense que quand il te manque un joueur comme Fabinho, quand tu n'as pas Falcao, parce que c'est un joueur majeur qui sort comme ça alors qu'il s'est entraîné le vendredi, il peut pas jouer le samedi. Et puis tu l'as dit, c'était face à un très très bon Paris, un très grand Paris. C'est aussi ça. C'est pour ça que après, ce qui est impressionnant, c'est la défaite. Moi, j'ai vécu ça en tant que joueur. En 2007, on a tout perdu. On était à 3 points de Lyon pour le titre, on perd à chez nous 4-1. On va en finale de Coupe de France, on perd contre Sochaux et on arrache la Ligue des Champions sur le dernier match à Saint-Étienne en gagnant 2-0.
Un but de Valbuena, non ?
Ouais, but de Valbuena. Donc c'est des choses qui arrivent, mais c'est pas parce que vous avez perdu un titre de une finale que le 3 jours après ou 5 jours après, vous pouvez pas rebondir. Je suis pas sûr qu'il y ait des vérités dans ce type d'événement.
Est-ce qu'ils vont privilégier une compétition ?
Bah, le propriétaire, bah, lui,
en l'occurrence, le championnat.
C'est
non, mais, par exemple, c'est là où ils ont plus de chance. Je pense à la Coupe de France.
Après, il y a un autre élément.
Est-ce qu'ils peuvent laisser passer la Coupe de France?
Je sais pas, mais habite-toi, t'as été joueur, t'as dû vivre ça, mais c'est aussi le moment où on rentre dans les sollicitations. Sollicitations pour l'avenir de certains. Et tout le monde n'a pas un entourage qui est toujours, voilà, hyper limpide. Il peut y avoir aussi des joueurs qui peuvent être pas influencés, mais qui peuvent
peut-être
laisser non, mais peut-être laisser de l'influx inconsciemment sans s'en rendre compte. Ça discute beaucoup en ce moment. Bah, Gayoko, Lemar, bon, Mbappé, il bougera pas normalement, sauf s'il y a une offre stratosphérique. Fabinho, enfin, à tous les postes quasiment, c'est des joueurs qui ont eu 2 chances sur 3 de plus être là la saison prochaine.
Mais tu penses pas que quand tu pars d'un club, t'as envie de partir avec un titre?
Oui.
Je pense tous autant qu'ils sont. Et puis, en 2017, c'est avec l'équipe avec Paris, ils ont perdu qu'une fois. Je veux dire, aujourd'hui, Monaco, c'est une dynamique, c'est ok, c'est deuxième fois maintenant avec cette finale de Coupe de la Ligue. Moi, je suis pas inquiet, réellement. De ce que j'ai vu, en tout cas, après le match, je suis pas du tout inquiet pour Monaco.
Un joueur qu'on attendait peut-être sur ce match, parce que en ce moment, on l'attend un peu sur tous les matchs, et on a vu qu'avec l'équipe de France, ça avait été compliqué, c'est Kylian Mbappé. Et on va l'écouter, Kylian Mbappé, parce qu'on est tous épatés, hein, par sa fraîcheur dans les propos, mais aussi par le côté très lucide de ses propos. Et écoutez, il parle de son inefficacité pendant le match.
Maintenant, je suis beaucoup plus attendu, donc je suis plus incognito, donc ça me permet de voir tout ce qui me reste à progresser. Et ça me permet aussi de développer une autre panoplie. Je pense que aujourd'hui, chaque match que je vais jouer, je vais être un peu plus attendu, donc c'est à moi de développer une autre palette et de montrer que même si on m'attend, je peux répondre présent.
Olivier ?
Non, je voulais, pour rebondir sur ce qu'il dit, Kylian Mbappé, la veille, on a rencontré Youri Djorkaeff, qui était l'ambassadeur de cette finale. Il a joué dans les deux clubs, il est né à Décines. Et on lui a demandé de nous parler de Mbappé. Il ne tarissait pas d'éloges, évidemment, mais il disait quelque chose de très intéressant. Plus que ce qu'on entend. Il disait, j'encourage les jeunes à l'écouter. Il a 18 ans, on rappelle, Kylian Mbappé. Et entendre Youri Djorkaeff tenir ce discours-là, de dire, bien sûr qu'il a tout le talent et tout ça, mais c'est surtout ce qu'il dit et le message qu'il véhicule. Quand j'entends Kylian Mbappé, quand je suis en zone mixte, en zone d'interview, et que je vois ce môme de 18 ans, qui vient de perdre sa première finale 4-1, qui n'a pas été bon, qu'on n'a pas vu globalement dans ce match, il vient. C'est déjà une première chose. Il s'arrête au télé, il s'arrête au radio, il fait les autres, la presse écrite derrière. Oui, il faut que ça dure, mais déjà il le fait. J'en connais pas beaucoup à son âge qui le ferait. Et en plus, il est lucide. On vient de l'entendre. Donc je peux comprendre que Youri Djorkaeff, qui est quand même un sacré aîné, soit lui aussi touché et ait envie de dire écoutez-le, vous les jeunes, parce que voilà, pourvu que ça dure. Mais pour l'instant, c'est quand même un exemple.
C'est ce que disait Thierry Henry dans une interview à Canal, super interview d'ailleurs.
Oui.
Où il expliquait que tout le monde parle de ses jambes, de son intuition.
Il parle de l'intelligence de son jeu.
C'est le courage qui démontre, elle est fantastique, quoi.
Mais là, peut-être qu'il y avait un plan anti Mbappé dans l'équipe du Paris
Saint-Germain. Après, j'ai été surpris, justement, de voir Mbappé rester constamment sur Thiago Silva. À aucun moment, il allait titiller Kimpembe, qui est un très très bon joueur, mais il est resté sur Thiago Silva. Alors, c'était sûrement une demande de Jardim. Après, je trouve que on a été dur avec Mbappé parce qu'on est tellement habitué en ce moment à ce qu'il nous offre du caviar. Il a pas eu de possibilité de s'exprimer. Il a pas eu de 1 contre 1 avec le gardien. Il a toujours touché des ballons à 60 mètres du but adverse et on s'attend à ce qu'il dribble toute une équipe en vitesse. Moi, je trouve qu'il a pas eu les ballons pour s'exprimer. Ils se sont échangés 2 ballons avec Valère Germain, donc ce qui est difficile pour
Mais justement, il avait été sûrement bien isolé.
Moi, je pense que c'est surtout que le milieu de terrain de Monaco n'a pas existé.
Mais sur ce qu'il est, j'aimerais bien avoir votre avis.
Ah, mais c'est exceptionnel, mais bien sûr.
Sur ce que dit Djorkaeff et sur ce que lui fait juste après le match, de venir comme ça, de monter au front.
Mais c'est quelqu'un qui pense. On va revenir à ce qu'a dit Thierry Henry parce que cette interview, elle était exceptionnel. Et en plus, lorsqu'il revient sur Mbappé, lorsqu'il dit Mbappé, arrêtez de le comparer à Thierry Henry, Mbappé doit faire du Mbappé, c'est aussi simple que ça. On n'a jamais vu un joueur qui a réussi la même carrière qu'un autre. Il y a eu des Zidane, il y a eu des Messi, il y a des Ronaldo, il y a eu des Pelé, des Maradona, et il n'y en a pas eu d'autres. Donc il faut que chacun puisse tracer sa route. Je pense qu'il le fait très très bien, et il est très très bien entouré, et il gère très très bien tout ce qui est, pour moi, ce qui est le plus difficile en football, c'est la communication.
Ouais.
Olivier, on s'interrogeait ce matin sur le pourquoi un petit peu de Monaco. On a eu l'impression qu'ils étaient un peu en dessous par rapport à leur niveau en général et par exemple par rapport au match retour contre Manchester City. Et vous, vous datez un peu, vous antédatez la défaite de Monaco.
Ce sont les conversations qu'on a entre journalistes quand on attend que ces messieurs sortent du vestiaire. Hein. Parfois c'est long, hein, Habib, hein. Prenez la douche ou quoi.
Oui, c'est vrai, c'est long. Massage, tout ça.
Et puis pour certains, tiens, comme Cavani qui est sorti 2 heures après tout le monde, il y avait contrôle antidopage. Alors ça, c'est encore autre chose. Et du coup, personne l'embêtait, tout le monde était parti. Il a dû être tout seul au stade, il rentre en taxi. Non, mais c'est vrai que sur les Monégasques, on faisait référence au match de l'équipe de France. Le fait que les 4 jeunes Monégasques aient été appelés par Didier Deschamps, est-ce que ça ne les a pas... Je pose la question, hein. C'est une question qu'on a évoquée entre nous. Est-ce que ça les a pas tués, entre guillemets? Est-ce que ça, voilà, moralement, quelques jours de cette finale, fatigué physiquement, enfin bon, bref, il y a plein de choses, vous voyez venir.
On l'avait entendu, Mbappé, à la sortie de son match de l'équipe de France, c'était un peu le même refrain qu'avant-hier soir. C'est-à-dire, il impactait un peu ce...
Il apprend. Faut quand même rappeler qu'en 4 jours, il s'est coltiné Ramos et Thiago Silva, quoi.
Ouais, mais.
Donc,
Mais ça, je veux pas l'entendre. Nabil, je veux pas l'entendre. Vous savez pourquoi? Parce que Cavani, il a joué 180 minutes avec l'Uruguay. Il s'est tapé voyage de dingue et c'est celui qui a le plus couru sur ce terrain.
Mais
Di Maria l'a mis en Bolivie. Donc aujourd'hui, psychologiquement.
Psychologiquement, ouais.
Ouais, si vous voulez. Ouais.
Non, mais c'est une question.
Bakayoko, par exemple. Moi, je reviens sur votre question, elle est bonne.
Parce que Bakayoko refait la même faute pratiquement que le match de l'équipe de France.
Il s'est dans une histoire France-Côte d'Ivoire, parce qu'on en a pas beaucoup parlé ici, mais en Côte d'Ivoire, je peux vous dire que ça a été assez chaud puisqu'il s'était apparemment engagé moralement. Bon, bref, on va pas rentrer dans les détails avec la sélection ivoirienne. Et finalement, un peu comme Nabil Fekir, il a changé de choix de carrière professionnelle. Il préfère jouer pour l'équipe de France. Très bien. Je pense que lui, ça a dû un peu secouer.
Il fait pratiquement la même faute que quand il était sur le terrain pour l'équipe de France.
Ouais,
en donnant pratiquement le ballon à l'adversaire.
Mais il perd le ballon à 40 mètres de son but. Je pense
que non, mais Mendy aussi qui avait l'air fatigué. C'était plutôt l'impact que ça avait eu.
Tout arrive au même moment. C'est-à-dire qu'ils ont un parcours énorme en Ligue des Champions. Ils sont appelés en équipe de France et ils jouent. Ils ont les clubs. Il y a Chelsea qui t'appelle. Effectivement, ça peut jouer. Effectivement, ils sont jeunes. Ils ont un talent monstrueux. Peut-être qu'on en parle trop. J'en sais rien. C'est peut-être nous la faute des médias, comme pour Mbappé.
C'est ce qu'on dit des fois.
Oui, mais regardez, si vous analysez le match, Mono, Glick n'a pas été bon. Emerson n'a pas été bon. Moutinho n'a pas été bon. Il n'y a pas que qui n'ont pas été bons. J'ai pas vu ces 4-là en dessous des autres. J'ai vu ces 4-là au niveau de l'équipe. Après, oui, ça peut prendre de l'influx nerveux, je suis d'accord. Quand t'arrives en équipe de France, première fois, t'as cette adrénaline, le fait de vouloir bien faire, et que quand tu ressors de cette équipe de France, tu peux être un petit peu vidé. Mais moi, je trouve que cette équipe, on va pas dire qu'elle a sombré, mais elle a malheureusement été moyenne collectivement. Elle n'a pas su exister en tant qu'équipe, ce qui était leur force d'habitude, et elle a manqué d'un joueur majeur au milieu de terrain, surtout dans les duels, dans les récupérations Fabinho. Des second ballons, c'est Fabinho. Mmh. Après, ça ne veut pas dire que le match aurait changé, puisque Paris a été très très fort. Je pense que Paris a été trop fort pour Monaco sur ce match-là.
Même avec Fabinho et Falcao, ça aurait peut-être été le même dessin.
Et puis elle aurait de se rater un match dans la saison aussi. Hein.
Bah oui, mais c'était la finale, c'était ça qui était un peu embêtant. Ouais. Vous parliez de Bakayoko et des tiraillements avec la sélection.
Les tirailleurs, quand on fait un petit ivoirienne
là. Donc
ils ont pas tout perdu les Ivoiriens. Voilà. Ça va nous faire une bonne transition pour basculer sur le championnat anglais parce que ce joueur-là appartient à Manchester City. Il est prêté à l'Udinese, mais Seko Fofana, c'est une information qui vient de notre correspondant Emmanuel Coffi en Côte d'Ivoire, qui a transité par Philippe Zigard, c'est vous dire, et nous la livre, tonton Philippe, avant l'émission. Seko Fofana, il a choisi la Côte d'Ivoire.
Et
il est blessé actuellement, mais 22 matchs, 5 buts cette saison. Ah, et ben voilà, les Ivoiriens n'ont pas tout perdu. Il récupère Seko Fofana, prêté donc par City à l'Udinese.
Il faut s'en réjouir. On s'offusque que quelqu'un puisse, un binational, puisse choisir soit l'équipe de France, soit la Côte d'Ivoire.
Ils ont le choix, leur droit.
Voilà, merci. C'est ce qu'il faut. Et il faut savoir le respecter, ce choix. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui s'offusquent de dire oui, il aurait dû souhaiter. Non.
D'un côté, dans un pays comme dans l'autre, d'ailleurs. Ça marche dans les deux sens. Ouais, il faut toujours se réjouir. Ils font le choix du cœur et c'est le plus important.
Du cœur, de la famille, de ce qui les motive.
Le cœur,
c'est
la famille, Yannick.
Ça dépend.
Merci, cousine.
On va passer à autre chose, n'est-ce pas, Bruno Constant? Avec cette question, le suspense est-il relancé en Première Ligue, Bruno? Oui, non.
On le saura mercredi. Avec Chelsea, Manchester City.
Bon, en tout cas, on va essayer d'anticiper. Parce que les Blues, ils ont perdu au cours du week-end une défaite sur leur propre terrain face à un mal classé, hein, puisque il s'agit de Crystal Palace. Mais Crystal Palace, on le sait, eux, ils essayent d'échapper à la relégation. Donc, ils ont peut-être une énorme motivation. En tout cas, voilà, 3 points perdus pour Chelsea, qui voit revenir, eh bien, les Spurs par si loin. Tottenham tient la distance. Tottenham est à 7 points maintenant de Chelsea. Y a-t-il danger? Les Blues ont-ils un coup de moins bien ou juste une mauvaise passe? En tout cas, Antonio Conte, il reconnaît que ça n'a pas été un bon jour pour eux.
I think today.
Écoutez, je pense qu'aujourd'hui nous méritions sans doute au moins le match nul. Je ne veux pas dire par là que nous méritions de gagner. Mais nous méritions au moins le match nul. Nous avons eu beaucoup, beaucoup d'occasions. Nous avons dominé le match contre une équipe certes très forte, avec de bons joueurs, mais c'est dommage. Je crois qu'aujourd'hui, ce n'était vraiment pas un bon jour.
Yeah, it's a pity, but I think today it wasn't our day.
Orient, Manchester City.
Bruno, ces Blues, qu'est-ce qui leur est arrivé, peut-on dire? Parce que c'était quand même à Stamford Bridge, et c'était certes contre une équipe qui avait la rage de vaincre, mais quand même.
Ils ont presque tout fait bien. Ils ont
Vous allez dans le sens d'Antonio gardien... Conte.
Non, mais ils sont tombés sur un gardien qui est en état de grâce, Enesi, qui explique pourquoi Mandanda joue pas à Crystal Palace. Ils sont tombés sur une défense héroïque à l'image de Mamadou Sakho, qui a été absolument énorme. Il a 9 dégagements dans sa surface, c'est hallucinant. Il est là depuis 4 rencontres. 4 victoires pour Crystal Palace, 3 clean sheets, 3 matchs sans encaisser de but, et une victoire chez le leader qui on promet au titre. C'est juste, voilà.
Avec un entraîneur corrompu, en plus.
Avec un entraîneur.
Incroyable. Un ami à moi, donc je peux me permettre de le dire.
C'était rigolo de voir le visage d'Abib pendant que Bruno Constant disait du bien de Mamadou Sakho.
Je l'aime beaucoup. En plus, je l'ai eu juste après le match, Mamadou Sakho. Il est très content de ce qu'il fait en ce moment. Je crois que c'est vrai que depuis qu'il est arrivé, ça se passe très très bien. Moi, je crois que c'est un petit accident pour Chelsea. Bruno l'a dit, Enesi a été juste exceptionnel. Je pense qu'un match comme celui-ci, il le rejoue 10 fois, il le gagne 10 fois, les joueurs de Chelsea. Et puis il y a une telle constance dans le jeu des Blues depuis le début de saison.
Ça fait, je crois,
ils avaient une série de...
Ils n'avaient pas plus perdu depuis 4 janvier, je crois, oui, contre Tottenham.
Exactement.
C'était la deuxième défaite seulement depuis le mois de septembre.
Ouais, donc, et puis
ils ont 4 défaites sur la saison.
7 points, c'est beaucoup, Annie. 7 points, c'est beaucoup. On ne se rend pas compte. Ouais. Et puis rappelez-vous, l'année dernière, Tottenham, qui était dans la même configuration avec Leicester, et qui n'avait pas été capable de les reprendre.
Les Spurs, ils peuvent les Spurs peuvent avoir appris de la saison dernière aussi et ne pas vouloir perdre cette année avant l'heure.
C'est leur force cette année, c'est qu'ils sont encore une fois la seule équipe à pouvoir batailler pour le titre, ce qui est déjà énorme. Alors qu'ils ont Harry Kane qui est blessé. Mais on le saura que mercredi, parce que City se déplace à Chelsea. Et là, effectivement, si City est capable d'aller gagner, ou ne serait-ce que faire match nul, et que Tottenham gagne à Swansea, là, effectivement, Tottenham revient à 5 points. Enfin... 5 points, là, on pourra en reparler. On n'a jamais vu Chelsea sous pression cette saison. On ne sait pas comment ils peuvent réagir sous la pression psychologique d'une équipe derrière. À voir. Moi, ça me paraît très compliqué pour les adversaires de Chelsea, quand même.
Moi, la seule équipe des Spurs que je vois remporter un titre cette année, c'est l'équipe de San Antonio Spurs aux États-Unis, qui est qualifiée en play-off NBA. Très sincèrement, moi, je pense que depuis un moment, c'est plié pour Chelsea. Je suis d'accord avec Abby pour dire que c'est un contre-coup, un accident. Vous êtes tombé sur une équipe bien regroupée qui a défendu à l'énergie, ce qui correspond
complètement. Il y a eu certaines défaillances. David Luiz n'était pas dans son meilleur jour.
Oui, mais ça avait été déjà le cas lorsqu'ils avaient perdu 2-0. Mais bon voilà, moi je trouve que Chelsea aujourd'hui a montré une certaine force cette saison
ils sont constants, ils sont réguliers.
Va continuer. En plus, ils ont rien à jouer, ils ont rien d'autre à jouer. Donc
si on parle d'expérience, il y en a quand même pas mal qui étaient champions d'Angleterre il y a 2 ans.
Oui, en plus et puis Antonio Conte, il faut lui faire confiance pour redonner un petit peu la niaque à cette équipe.
Puis Hazard qui doit préparer
il va pas les lâcher quoi. Donc je vois toujours Chelsea être champion. Les Spurs font quelque chose de remarquable, c'est surtout Pochettino qui va être vraiment à mon avis sollicité par les plus grands clubs aujourd'hui en Europe, et d'ailleurs on parle de lui éventuellement au Barça.
Je pense pas qu'il partira de Tottenham. Connaissant un peu les dirigeants de Tottenham qui sont extrêmement difficiles sur les contrats des joueurs et des entraîneurs, je vois pas comment ils peuvent laisser partir Pochettino.
Parce qu'il faut pas oublier que sur le papier, les Spurs de Tottenham, même s'ils ont Harry Kane qui a été meilleur buteur en Angleterre, c'est pas non plus. Il y a des internationaux, Mais ce que je veux dire, c'est que sur le papier, c'est beaucoup plus ronflant à Manchester United, c'est beaucoup plus ronflant à City,
c'est
beaucoup
plus ronflant. Mais c'est la deuxième saison qu'ils tiennent dans le Big Four et qu'en plus ils tiennent la deuxième place.
Parce que aussi, il y a des défaillances de gros comme Manchester City cette saison, par exemple. On les attendait beaucoup plus haut. Mm-hmm. Ils sont pas dans la course au titre. C'est une équipe très jeune. Tottenham a beaucoup d'anglais. Et puis surtout, c'est un banc qui est très limité. Et on voit dès qu'il y a une ou deux blessures dans le 11 titulaire, c'est très compliqué.
Ils ont raté le coach l'année dernière, Tottenham, pour le titre, comme Arsenal. D'ailleurs, Chelsea, c'est trop fort cette année. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout de savoir, et je vous le dis très honnêtement, si Eden Hazard va aller au Real ou pas en fin de saison. Voilà,
il a pas comme ça, c'est pas si triste.
Il a dit qu'il se sentait très bien à Chelsea.
Ouais, bon, ça veut dire qu'il est prêt à partir.
Il faut voir. Il faut voir, en tout cas.
Habib, quand on dit ça, c'est qu'on est prêt à partir.
Moi, je pense qu'il a pas le niveau pour aller au Real Madrid. C'est dingue. Je suis pas méchant, mais je pense qu'il plafonne depuis.
Il est bon cette année, quand même.
Non, il est bon cette année, mais c'est la saison qu'il a fait il y a deux ans pour moi, ce qu'il fait cette saison. Après,
meilleur joueur du championnat d'Angleterre quasiment.
C'est le Real Madrid. C'est le Real Madrid avec les joueurs qu'ils ont aujourd'hui.
Est-ce que Bale il a été si extraordinaire que ça en Angleterre?
Bale, il était pas mal.
Bale a été exceptionnel. Bale a été très bon. Bale a été exceptionnel.
Moi, vous me demandez entre Gareth Bale et Hazard, lequel je mets sur le terrain, je trouve que Hazard, il sent plus le football.
Regarde les stats quand même.
Si la question c'est de savoir si Hazard ira un jour au Real Madrid, oui, il ira un jour. C'est certain. C'est certain, c'est plus ou moins déjà fait, on ne sait pas quand, c'est surtout ça.
Bah voilà.
Alors, incident de parcours, on va dire, pour les Blues, et on attendra donc mercredi et leur match. En attendant, on va parler des autres, parce que derrière, il y avait deux poursuivants, et c'était intéressant de voir s'ils allaient réussir à se départager, Arsenal et City, ils n'ont pas réussi. Et écoutons Arsène Wenger, parce que évidemment, il peut avoir des regrets sur ce match très intense, mais qui s'est terminé sur le score de 2-2.
Ça manque un peu d'influx nerveux. Mais je pense aussi que la pression sur notre équipe était tellement forte qu'on a débuté avec les nerfs et qu'on a été un peu, je dirais, jouer avec le frein à main au début, on s'est fait surprendre. On a vu que l'équipe souffrait d'un manque de confiance et que au niveau de la fluidité technique, on peut faire mieux. Mais d'un autre côté, elle a aussi montré des ressources, qu'elle était bien vivante et que deux fois mené au score contre une équipe aussi dangereuse que Manchester City, on est revenu au score. Mathématiquement, c'est pas une bonne affaire ni pour City ni pour nous. Au niveau mental, je pense que la meilleure affaire est pour nous parce qu'on était un peu dans le trou. J'espère que ça nous aidera à redémarrer dans le prochain match. Être dans le top 4, c'est vraiment un trophée parce que c'est tellement difficile. Moi, pendant 20 ans, je l'ai fait. Aujourd'hui, c'est difficile, mais bon. Faudra se battre jusqu'au dernier jour si on veut avoir une chance. Mais je pense que on a la possibilité, oui.
Une équipe qui a du ressort moral, puisqu'elle revient à la marque, mais en même temps qui ne gagne pas et qui aurait eu bien besoin de cette victoire pour essayer de rester dans ce Big Four, Bruno.
C'est toujours le même problème avec Arsenal, c'est qu'on a l'impression qu'ils attaquent les matchs. Au bout de 5 minutes, ils jouent comme s'ils étaient à 5 minutes de la fin du match, qu'ils étaient menés 2-0, qu'il fallait pousser pour marquer. Ils étaient ouverts de partout au bout de 5 minutes, forcément ils prennent un but et tout de suite ça devient très compliqué. Et en plus de ça, il y a une ambiance à l'Emirates Stadium qui est assez bizarre, qui est assez terne. Les supporters se battent entre eux, à l'intérieur du stade, à l'extérieur du stade.
Entre pro et anti-Wenger ?
Ou entre pro et anti-Wenger, c'est en train de... Toute cette incertitude autour de l'avenir d'Arsène Wenger est en train de prendre des proportions autour du club qui est assez énorme et les dirigeants ne réagissent pas. C'est assez
hallucinant.
Il y a des banderoles, il y a une fois des avions, maintenant c'est des camions qui sont loués avec des panneaux publicitaires.
Ça suffit en gros, c'était ça.
Voilà, c'est ça. Et ça devient très compliqué et le problème c'est que... Alors bizarrement...
Mais ça déteint sur le jeu des joueurs ?
C'est ce que disait Arsène Wenger. Faut pas que ça soit une excuse pour les joueurs. Et là, il a raison. Les joueurs, ils se battent pour le présent du club, pour le futur du club en Ligue des Champions, pour être à nouveau qualifiés. Et on a l'impression que certains abandonnent un petit peu. Il y a des actions, des
Alexis
situations.
Alexis Sanchez, c'est incroyable.
Alexis Sanchez, Mesut Ozil, Xhaka sur le deuxième but où ils défendent, ils arrêtent complètement de jouer. Ils se préoccupent pas du tout de leur défense. C'est pas possible à ce niveau-là. Et en même temps, quand on regarde le classement, donc ils sont sixième, ils sont à 7 points du quatrième avec un match en retard. C'est qu'ils sont, encore à portée de cette quatrième place, qui est assez hallucinant.
Mais c'est la première fois qu'ils se retournent dans cette situation. Oui. D'habitude, ils se battent pour revenir, mais ils sont toujours dans le top 4.
Ils se battent pour le podium d'habitude.
Ils ont parfois été décrochés, devancés par Tottenham, mais ils avaient réussi à les passer en toute fin de saison. Ils sont encore capables de le faire. Le problème, c'est qu'on voit pas cette équipe. La façon dont elle joue aujourd'hui, on les voit pas se hisser parmi les quatre.
Et puis l'ambiance, tu le disais,
Il faut quand même doubler Manchester United, faudra doubler Manchester City. C'est pas n'importe qui devant. C'est jouable mathématiquement, mais il va falloir.
Moi, je pense qu'il faudrait vraiment que Arsène Wenger scelle son avenir rapidement. Ouais. Parce que le souci que vous avez lorsque vous avez un entraîneur qui a autant d'importance dans un club, parce que lui, c'est le boss, c'est le patron, ça fait 20 ans qu'il est là, les joueurs savent que de toute façon, ils partiront sûrement avant lui. Et vous avez des joueurs comme Alexis Sanchez aujourd'hui qui sont sollicités par des grands clubs européens. Et si lui ne dit pas ce qu'il va faire, c'est difficile pour les joueurs de s'inscrire dans un projet. C'est-à-dire de se dire, est-ce que ça sera lui, est-ce que ça sera pas lui, est-ce que nous on sera là, est-ce qu'on sera pas là. Moi, je l'ai vécu parfois dans une situation un petit peu.
Ça déstabilise.
Ça déstabilise, oui, bien sûr, c'est une certitude.
Et puis avec quelle ambition surtout, parce que si c'est pour faire l'équipe de contrôleur de gestion comme à chaque saison, sans recruter forcément des cracks, même si l'on fait une fois ou deux avec Ozil. Et Sanchez, c'est toujours la même problématique avec Arsenal. Quelle est l'ambition
Le message d'Alexis Sanchez, Alexis Sanchez a donné une interview dans son pays au Chili la semaine dernière. Il était très clair. Il a dit qu'il veut savoir quelle est l'ambition du club. Il veut rester. Il se sent bien à Londres. Il veut rester à Londres dans une équipe qui gagne des titres.
Il n'y a qu'un club à Londres.
Et
voilà. C'est la réponse.
Et pour l'instant, c'est pas Arsenal.
Juste un petit mot sur l'autre match aussi qui était très important. C'était ce derby de la Mersey dans le nord de l'Angleterre entre Liverpool et Everton. Et les Reds restent, les maîtres de leur pelouse dans le field.
Grâce à Sadio Mané.
Grâce à Sadio Mané.
Exceptionnel.
Et un peu Coutinho.
Et Philippe Coutinho aussi.
Le but de Sadio Mané est magnifique.
Exceptionnel. Non, mais c'est pas que le but, c'est la saison de Sadio Mané.
Dommage qu'il y ait eu la CAN, parce qu'il fera pas, en termes de stats, il fera pas la saison qu'il aurait pu faire.
Mais c'est surtout que Liverpool ne sera peut-être pas champion parce que Sadio Mané aussi.
Ou en tout cas, il sera parti à la CAN.
Il serait encore dans la course au titre s'il avait été là, effectivement. Et surtout, je pense que Sadio Mané, il est aujourd'hui sur le podium des trois meilleurs joueurs de la première ligue. C'est évident. Il fait une saison, c'est la meilleure recrue de l'été.
42 millions d'euros, rappelons-le, le joueur africain le plus cher.
Il a 13 buts
de l'histoire.
13 buts en championnat.
Il faut le dire aussi.
13 buts en championnat pour un joueur qui est le plus souvent sur un côté.
Et puis tu as vu la palette des buts. Ça accélère, ça défie, ça frappe pied gauche.
Le but, c'est de terminer deuxième de ce championnat d'Angleterre pour Jürgen Klopp.
C'est surtout de pas terminer à la cinquième place et de se faire avoir sur la Ligue des Champions, parce qu'ils sont, même s'ils sont troisième, ils ont deux matchs d'avance sur la plupart.
Deux matchs par exemple sur Arsenal, mais ils ont
un sur Manchester City,
un sur Chelsea.
Et un sur Tottenham.
Mais ça nous montre tout de même le travail de Klopp. Parce qu'il avait dit, laissez-moi une saison avec mon équipe, avec une préparation d'avant-saison. Et on se rend compte que malgré tout, aussi sur le papier, un peu à l'image de Tottenham, c'est pas les noms les plus ronflants, même s'il y a des Coutinho, il y a des Sadio Mané. Mais Sadio Mané, c'était un réel pari. C'est pas aujourd'hui, c'est une star aujourd'hui, mais ça l'était pas lorsqu'ils l'ont recruté. Et qu'il soit capable de s'inscrire dans le top 4 et de défier quand même les Manchester City et consorts, ça prouve que lui fait du très bon travail.
Eh bien, on s'arrêtera sur la prouesse de Sadio Mané au sein des Reds durant le week-end. Merci messieurs d'avoir participé à ce Radio Foot International. Merci aussi à Richard Rifono qui était à la réalisation aujourd'hui. Merci à David Finzel et puis aux lumières de Marin Bobo, notre stagiaire. À demain.
7 milliards de voisins.